le journal. Adieu, coucou.
Merci de nous joindre. Voici tout de suite les titres de ce journal. Les ex-phases enfin de retour au pays. Un premier convoi d'au moins une centaine de ces anciens soldats zaïrois a accosté il y a une heure au Beach Ngobila à Kinshasa. Le point dans ce journal avec notre reporter René Capita qui se trouve sur place. Une femme de moins au Parlement, l'honorable Mathilde Muindo a démissionné. La représentante de la composante, femme de la société civile, estime que sa participation au Parlement lui semble inutile par rapport aux attentes de paix et de protection de la population du Sud Kivu. Vous l'entendrez dans cette édition. Les travaux de réhabilitation de quelques artères à Mbandaka sont en léthargie. Pourtant, le vice-président avait donné près de 5000 sacs de ciment pour leur exécution. Qu'est-ce qui est à la base de ce blocage? La réponse est tout à l'heure dans cette édition. Encore une fois, bonsoir. C'est aux environs de 17h, heure de Kinshasa, que le bateau ramenant le premier groupe des ex-phases en provenance de Brazzaville a accosté au beach de Kinshasa, avec à son bord plus d'une centaine d'éléments. Le ministre de la Défense, Adolphe Onusumba, était au beach pour les accueillir, ainsi que les délégués de la CONADER et de la structure militaire d'intégration. Les anciens militaires zaïrois, leurs épouses et leurs enfants étaient accompagnés par une délégation du Congo-Brazzaville, dont le conseiller en matière de sécurité du ministre de la Sécurité de ce pays. L'opération de rapatriement se poursuivra demain mercredi. Le point à l'arrivée au beach de Kinshasa avec René Capita.
C'est autour de 16h40, heure de Kinshasa, que le casque Matadi affrété par la CONADER a accosté au beach Ngobila. À son bord, 240 personnes, dont les militaires ex-phase et leurs épouses et enfants, chargés de plusieurs bagages. Tous expriment leur joie de regagner la terre des ancêtres après 8 ans d'exil. La structure militaire d'intégration, le ministre de la Défense et une délégation de la CONADER et plusieurs journalistes se bousculent ici, qui pour interviewer les arrivants, qui pour les canaliser vers les bus qui les attendent. Après identification par les services de la DGM, les ex-phases revenus ensemble au pays embarquent dans les bus qui les transportent vers les sites d'hébergement en attendant leur réinsertion dans l'armée ou leur démobilisation. Depuis le Beach Ngobila, René Capita, Radio Okapi.
Avant d'aller au Beach Ngobila pour accueillir les ex-phases, le ministre de la Défense, Adolphe Onusumba, était au Parlement où il avait été interpellé, lui et ses autres collègues. Cependant, la séance a été suspendue dans un tollé général au Palais du Peuple. Elle reprend demain. À la base de cette suspension, la réaction des députés aux propos du ministre de la Justice. Honorius Kissimbangoy a en effet commencé son intervention à l'Assemblée par le rappel de l'article 95 de la Constitution qui stipule que pendant toute la durée de la transition, l'Assemblée nationale ne peut renverser le gouvernement. Les députés ont jugé ces propos d'avis à tenir l'institution parlementaire. Rappelons qu'au cours de cette séance présidée par Mme Philomène Omatoukou, les députés ont eu à entendre le ministre de l'Intérieur et celui de la Défense sur les questions de sécurité au Nord Katanga et du rapatriement des ex-phases. Deuxième journée des opérations conjointes FRDC-MONUC contre les forces négatives au Nord Kivu. Le bilan s'est alourdi. Aux 16 combattants capturés hier, s'ajoutent 16 autres combattants d'un groupe armé congolais tués. Il faut également noter la libération de 3 agents de la commission électorale indépendante. Ces derniers avaient été enlevés par ce groupe armé. Plus de détails sur cette opération avec Broy Munganga.
Avant la fin de cette journée, des unités de la 5e brigade intégrée devraient être déployées dans 3 principaux camps abandonnés par des combattants auto-rwandais dans le parc de Virunga. La MONUC compte maintenant aider logistiquement les unités des FRDC à occuper ces différents camps. Et pour revenir à la journée d'hier lundi, des sources militaires des FRDC parlent des dizaines d'éléments FDLR capturés. D'autre part, des éléments FRDC ont fait un raid hier dans la soirée dans le camp d'un groupe armé congolais à Virunga, plus à l'ouest du parc de Virunga. Cette opération visait à libérer des agents de la CEI qui avaient été enlevés par ces groupes armés il y a plusieurs jours. Les deux factions armées auraient échangé des tirs. Bilan, 16 morts du côté de ces groupes armés congolais et 1 mort dans les rangs des FRDC. 3 agents de la CEI ont été libérés. 1/4 s'étant enfui plus tôt par ses propres moyens. Toutes ces informations sont confirmées par le commandant de la 8e région militaire, le général Amissi. Une prochaine opération sera menée dans une autre région du parc mercredi. Goma, Broy Munganga, Radio Kapi.
Et puis d'autres retombées dans cette opération militaire en cours. 120 combattants Maïmaï se sont rendus à la MONUC et des sources militaires rapportent que les FRDC viennent d'occuper ce mardi 3 des 4 positions des Maïmaï du commandant Jackson dans la forêt de Rutshuru. Démission au sein du Parlement de transition, l'honorable Mathilde Mouindo, représentante de la composante femme de la société civile, dénonce l'inertie du gouvernement de transition face au massacre qui continue au Sud-Kivu. Dans sa lettre adressée au président de l'Assemblée nationale, Mathilde Mouindo estime que sa participation au Parlement lui semble inutile par rapport aux attentes de paix et de protection de la population du Sud-Kivu. On l'écoute au micro d'Astrid Mujinga.
Nous qui sommes ici au Sud-Kivu, nous nous demandons quand est-ce qu'on va mettre fin à ces hostilités. Que maintenant on arrive à égorger les personnes sans que cela puisse faire, je dirais, une préoccupation aux gouvernants. Une armée nationale restreinte intégrée. On sait bien que c'est lent, hein, le processus est lent. Mais il y a aussi le problème des soldes des militaires. Quand on nous envoie des milliers de militaires pour nous sécuriser qui ne sont pas payés, c'est comme si on les envoyait encore pour nous terroriser. Parce qu'un homme en armes qui a faim, eh bien, il se permet n'importe quoi. Malheureusement, c'est ce que nous constatons. Et alors qu'on nous a parlé des millions qui étaient détournés, des millions qui devaient servir à payer les soldes des militaires, cet argent est détourné. Et puis, on ne sait pas encore jusqu'à présent si ces autorités actuelles arrivent à payer les soldes des militaires.
À Kindu, c'est un ouf de soulagement pour les commerçants. Ils ont pu retrouver leurs marchandises intactes après l'accident du Boeing 727 de la MIBA. Cependant, l'appareil est irrécupérable suite à la panne du train d'atterrissage. Suivant le commandant de bord du Boeing 727 de la MIBA, M. Mukendi Tumbusena, qui revient sur les circonstances du drame, il est au micro de Mami Alili Chibangu.
On s'est posé. Malheureusement, il pleuvait beaucoup, la piste était couverte de l'eau. Alors, malgré le freinage, l'avion a glissé, jusqu'à ce que nous sommes retrouvés en dehors de la piste. Comme vous savez, chez vous ici à Kindu, après la piste, il y a des trous. J'ai aperçu un trou, j'ai braqué l'avion à gauche afin d'éviter de monter sur les gens. J'évite le deuxième trou et heureusement, c'est le troisième trou qui nous a bloqué, qui a cassé tous les trains. Et devant nous, il y a un ravin. Dieu est là, je l'ai bien dit que Dieu est là pour nous.
Mais techniquement parlant, est-ce que vous pensez récupérer au moins cet appareil?
Non, franchement non, parce que je peux juste récupérer l'essentiel, c'est-à-dire les moteurs, les trois moteurs. Parce qu'avec les trois moteurs, si nous nous vendons, nous pouvons avoir un autre avion d'occasion.
Direction province orientale où l'on signale des accrochages ce matin à Kisangani entre deux groupes d'élèves partageant un même bâtiment scolaire. À la base, une décision du chef de la sous-division urbaine de l'EPSP Kisangani instaurant un système de rotation entre deux instituts secondaires fonctionnant dans les mêmes bâtiments. La mesure n'a pas rencontré la satisfaction des concernés qui se sont affrontés par des jets de pierre. Bilan, une dizaine de blessés dont un grièvement et d'importants dégâts matériels. Explication André Kitenge.
Ces accrochages remontent à la journée d'hier lundi. De ce matin vers 7h, alors qu'ils sont venus suivre les enseignements, conformément au nouveau système de rotation mis en place par le chef de la sous-division urbaine de l'EPSP 1, les élèves de l'Institut de Kisangani 2 ont rencontré la résistance de leurs copains de Kisangani 1 opposés à cette alternance. Ces derniers les ont donc empêchés à accéder dans les salles de classe. Après 30 minutes de discussion entre élèves et enseignants, les jets de pierre ont commencé entre ces deux groupes d'élèves, faisant une dizaine de blessés et des dégâts matériels important. Une dizaine d'élèves blessés, des vitres cassées ainsi que la destruction partielle des bureaux de deux instituts. La police anti-émeute est intervenue quelques minutes plus tard pour disperser les élèves dans la cour de l'école à l'aide des matraques. C'était alors la confusion totale car certains policiers et quelques passants confondus aux élèves ont été eux aussi blessés. Présentement, le calme est revenu et les pourparlers sont en cours entre les autorités scolaires et provinciales pour essayer de décanter cette situation. De Kisangani, André Kitenge, Radio Okapi.
Encore un conflit, mais il concerne cette fois-ci deux familles de Mwanji, localité située à 130 km de Mweneditu. C'est dans le Kasaï oriental. Les deux camps se sont affrontés, faisant deux morts et un blessé. À la base, un conflit foncier dans lequel l'une des deux familles contestait la décision du chef coutumier de réattribuer une terre qui leur aurait appartenu à un autre propriétaire. Pour l'instant, les auteurs du crime sont introuvables. Restons au Kasaï oriental avec cette action en faveur des détenus de la prison de Mweneditu. Les autorités provinciales provinciales ont décidé d'une aide d'urgence pour les 70 prisonniers de centre pénitentiaire. La mairie de Mouenéditou a fait don de nourriture et de savon pour une période d'environ 2 semaines. Un appel avait été lancé par les partenaires humanitaires et les agences zonisiennes sur les conditions carcérales particulièrement indignes de ce centre pénitentiaire. Patrick Balouba, gouverneur intérimaire, est au micro de Nick Mputu.
Ensemble, nous avons trouvé des solutions palliatives, c'est-à-dire que nous avons pu réunir le minimum pour faire face à l'urgence. On a trouvé assez de vivres pour une semaine à Mouenéditou. Entre-temps, mes services techniques sont en train de monter des mécanismes pour trouver des solutions assez durables.
18h10 à Mbandaka, 18h10 également à Kinshasa, la suite du journal avec vous, Adia Chibougou.
Les travaux de réhabilitation de quelques artères de la ville de Mbandaka n'avancent toujours pas. Pourtant, le coup d'envoi a été donné le 6 août dernier par le gouverneur de province de l'Équateur. En plus, le vice-président de la République, Jean-Pierre Bemba, avait fait un don de 5000 sacs de ciment pour l'exécution de ces travaux. L'Office des voiries et drainages, OVD, qui exécute ces travaux, affirme qu'il ne reçoit plus de matériaux pour la poursuite de ces travaux. Des précisions avec Henri Lobondo-Bokelo.
Ce sujet alimente des débats auprès de la population mbandakaise qui cherche à savoir quels sont devenus les 5000 sacs de ciment offerts par le vice-président en charge de l'économie et finances, Jean-Pierre Bemba, pour la réhabilitation des artères de Mbandaka. Selon l'OVD qui exécute les travaux, depuis que le coup d'envoi de ces travaux a été donné par le gouverneur de province, Yves Mobando, le 6 août dernier, depuis cette date, même pas un kilomètre n'a été réfectionné. Pourquoi ? Réponse du directeur provincial de l'OVD.
Dans l'exécution des travaux, l'OVD se trouve en aval. Les 5000 sacs de ciment ont été mis à la disposition de la province. Donc c'est la province qui doit mettre les moyens pour que l'OVD puisse exécuter correctement les travaux.
Contacté à ce sujet, le gouverneur de province Yves Mobando reconnaît l'existence de ces 5000 sacs de ciment. Mais il déclare n'avoir reçu que 2000 sacs, dont 950 ont été mouillés dans la barge du bateau qui les transportait pour Mbandaka. Yves Mobando.
Ce don-là ne nous a jamais été donné à Mbandaka. Au moment où je vous parle, il y a encore d'autres sacs au niveau de Kinshasa, c'est compte tenu des moyens que nous faisons pour les évacuer au niveau de Mbandaka. À ce qui concerne les travaux proprement dits, ça, il faudra poser la question au maire.
Alexis Issanzola, maire de la ville de Mbandaka, qui supervise les travaux, donne sa version de fait.
Pour un chantier comme la voirie urbaine ici, on ne peut pas se contenter de 3 brouettes, de quelques 2-3 houes. C'est ce que nous avions reçu et sans plus. Nous n'avons pas encore atteint 50 sacs.
Affaire à suivre. De Mbandaka, Henri Lobondo-Bokelou, Radio Okapi.
Au Kasaï occidental, 90 jeunes de 3 zones de santé sensibilisés depuis lundi sur le sida et le vrai amour. Cette formation a pour objectif de faire des bénéficiaires capables de maîtriser les notions de base sur les infections sexuellement transmissibles et le sida. C'est pour promouvoir un comportement responsable, particulièrement l'abstinence sexuelle. Pourquoi le choix des 3 zones de santé à travers la province ? Réponse avec Justin Matangwa, consultant du programme Santé en milieu rural. Il est au micro de André Kambala.
Nous avons choisi les jeunes parce que vous savez que l'avenir d'un pays, d'une nation dépend de la formation qu'on donne maintenant aux jeunes. C'est pourquoi nous avons choisi les jeunes de manière à ce qu'ils puissent être vraiment responsables.
Et pourquoi seulement dans 3 zones de santé alors que la province a beaucoup de zones de santé?
Vous savez, c'est la politique des moyens. Et puis spécialement, nous avons choisi Chika, Jiboulap et le Bondai parce que ce sont des zones de santé appuyées par Sanru et CCIMA.
Qu'est-ce que vous attendez de ces jeunes-là?
Nous attendons de ces jeunes-là la prise en compte des méthodes qu'on va leur inculquer de manière à ce qu'ils puissent propager ça, diffuser ça à travers leur communauté de base.
En quoi consiste la formation?
Oui, la formation consiste à former les jeunes gens dans les techniques de sensibilisation, lutte contre le sida et l'IST.
Bouclons ce journal par ce drame dans le Bas-Congo. Un chasseur a été chassé par sa proie. Cela s'est passé vendredi dernier dans la forêt située non loin de Boma. Le chasseur Defao a donc été tué par un buffle alors qu'il pensait l'avoir abattu à l'aide de son fusil. L'animal va le dépecer après l'avoir pourchassé. C'est l'émotion du côté de la cité de Maou où les faits se sont déroulés. Récit de ces faits dramatiques avec Lievin Bwinga.
Defao, vieux et grand chasseur des buffles, tue parfois 4 à 5 à l'aide de son fusil. Pour prouver sa puissance, il se fait accompagner d'un groupe de jeunes gens sans armes. Leur mission, transporter le gibier que lui seul aura tué et le chasseur devrait ensuite se tailler la part du lion. Après quelques heures de marche dans la forêt non loin de la cité de Maou dans le Bas-Congo, Le chasseur se retrouve face à un buffle. Comme d'habitude, il tire plusieurs balles. L'animal est atteint et va détaler. Derrière lui, défao le grand chasseur et le jeune garçon. Mais le buffle malin va se cacher derrière un buisson et puis c'est l'inverse. Défao est pourchassé par le buffle furieux qu'il croyait mort et les garçons sont incapables de le secourir n'ayant pas d'armes. L'animal va rattraper le grand chasseur et va le dépecer. Mort, Défao a été enterré dimanche. Ainsi se termine à Baou l'épisode du grand chasseur chassé par son gibier. De Boma dans le Bas-Congo, Lévin Mbouinga, Radio Okapi.